La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
8h44, c'est l'heure d'Esprit Libre avec Christophe Barbier, éditorialiste, et Maître Sophie Obadia. Ce matin, jusqu'à 9h environ, on va parler mœurs aujourd'hui. Mais juste avant, un mot sur cette motion de rejet qui se transforme en crise politique. Ce rejet du projet de loi immigration, un mot qui n'ait été dit depuis 7h du matin sur Radio Classique, Christophe.
Cette motion de rejet est en fait une motion de censure unipersonnelle. On ne fait pas tomber un gouvernement, on fait tomber un ministre, Darmanin, qui, même si sa démission a été refusée, est quand même terriblement affaibli. C'est un « et en même temps » des oppositions, puisque c'était « je rejette ce texte parce qu'il est trop dur », puis d'autres « je rejette ce texte parce qu'il est trop laxiste ». Ce « et en même temps » des oppositions, qui n'a aucun avenir politique, a tué le « et en même temps » de la majorité, ça c'est évident. Comment on en sort? On sait déjà que se met à l'œuvre une mécanique de la commission mixte paritaire, où le gouvernement va essayer d'aller demander à la droite de trouver un accord pour sauver ce texte. Je voudrais juste qu'on se projette sur le mois de janvier. Rendez-vous avec la nation, a promis Emmanuel Macron pour le mois de janvier. Qu'est-ce que ça peut être désormais, ce rendez-vous avec la nation? Dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, on parlait d'un grand texte régalien qui parlerait de l'AME, l'aide médicale d'État, des mineurs non accompagnés, etc., etc. Tout cela apparaît bien dérisoire. Le grand rendez-vous avec la nation, ça devrait être au minimum un remaniement complet du gouvernement avec un nouveau Premier ministre, au maximum une dissolution, mais on ne voit pas trop ce qui pourrait en sortir, si ce n'est un chaos ajouté au chaos.
Il en a donné des rendez-vous, hein, Emmanuel Macron, avec les grands débats, les conférences climat, etc.
Et la nation n'en veut plus de ces rendez-vous.
C'est quand même le triomphe du droit parlementaire, en fait. L'invité de 8h15, Martial Foucault, nous expliquait que les parlementaires redécouvraient les finesses des manœuvres parlementaires en utilisant des textes qui n'avaient pas été utilisés depuis 1998.
Et le PACS. Vive la 4e République.
Oui, on y revient.
Alors, on passe aux mœurs, et j'en viens à cette séquence autour de ce tableau et qui a été montré à des élèves du collège Jacques Cartier dans les Yvelines. Un tableau du XVIIe siècle qui représente des femmes, des nymphes nues, qui a choqué des élèves, lesquels ont détourné les yeux pour certains jusqu'à prétendre que la prof était raciste ou qu'elle était xénophobe, conduisant l'équipe pédagogique à exercer son droit de retrait. Émotion, et là on se demande si on n'a pas affaire à de nouveaux petits Tartuffes, Sophie.
Bien sûr qu'on a affaire à de nouveaux petits Tartuffes.
Ils sont en sixième, hein, quand même.
En sixième, ouais. Ah, ça je ne le savais pas. Donc un mélange des genres absolument incroyable, c'est-à-dire de la pruderie mal, de la pudibonderie mal cachée, revendiquer un racisme qui évidemment n'a rien à voir avec l'histoire, et finalement on revient toujours à la même question, on ne veut plus apprendre rien. Rien. On ne veut plus savoir, on ne veut plus entrer dans le beau, dans la littérature, dans l'histoire, rien. On est juste génération offensée, et si vous me dites que ça commence en sixième, c'est très inquiétant.
Christophe,
Chez ces salafistes en culotte courte, sans doute téléguidés aussi parce que leurs parents leur ont inculqué ou leurs imams, on a deux choses. On a d'abord le rejet de la culture européenne. C'est un truc de blanc, ça nous intéresse pas. Votre mythologie grecque, votre culture, la peinture européenne, on la rejette. C'est pas notre culture et ça ne le sera jamais. Puis on a surtout, et ça m'inquiète plus, un rejet de la femme. Ce qui les choque, c'est de voir des femmes nues. Donc une femme, ça se cache. Une femme, ça s'invisibilise dans la société avec des voiles et puis dans les tableaux, pareil, avec des voiles qu'on va bientôt devoir peindre. Ou comme on a voilé les statues dans des périodes pudibondes aussi en Italie. C'est une forme de talibanisation lente. Alors bon, ce n'est qu'un collège avec une classe, donc ne dramatisons pas, mais on commence comme ça, et puis bientôt, si ça devenait la loi de la majorité, bah pourquoi garder les tableaux accrochés au Louvre? On les cachera dans les réserves, on ne montrera que des tableaux pudiques. C'est comme ça qu'on en vient à faire sauter les Bouddhas de Bamiyan.
Oser le classicisme en classe de 6e. Je serais curieux de savoir comment les féministes vont s'emparer de cette affaire, ou si elles vont ne pas s'en emparer.
Je suis féministe, mais je considère qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté qui, effectivement, est de ne pas prendre tous les problèmes. Les femmes iraniennes, les femmes à Kaboul, et ce type, effectivement, de comportement dans un collège. Effectivement, j'observe que chez les féministes contemporaines, il y a une limite. On ne va pas jusqu'à ces sujets parce qu'on s'intéresse dans un entre-soi tout à fait, mesquin et peut-être même égoïste à des questions de féminisme contemporain ici en France, et j'ai même tendance à dire ici à Paris, puisque c'est un peu différent en province. Quand je vais plaider des affaires de mœurs en province, je m'aperçois qu'il y a une autre façon de voir la question homme-femme. Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas jusqu'à défendre toutes les questions universellement partout dans le monde.
Ce sont les ravages de l'intersectionnalité. La femme est opprimée, donc on la défend, sauf quand on tombe sur quelqu'un de plus opprimé encore. Et l'immigré victime de siècles de colonisation est encore plus immigré. Donc, on peut pas dire du mal des Iraniens parce qu'ils voilent les femmes, parce que c'est encore pire que d'être musulman que d'être femme dans notre société moderne. On voit la limite idéologique de ce néo-féminisme. Diane et Actéon, c'est un tableau féministe. C'est la déesse de la chasse qui punit un homme.
Mais oui.
Parce qu'il a refusé de coucher avec elle, dit une version, parce qu'il les a regardés se baigner nus, dit une autre version. Elle le punit en le transformant en cerf, et comme Actéon est un chasseur, il se fait dévorer par ses propres chiens. Donc c'est une grande victoire de la femme d'autorité contre les hommes qui reluquent les femmes.
Et ça n'est pas une victoire du consentement masculin, et vous me voyez arriver, puisque c'est la transition vers, vers l'autre sujet, Sophie Obadia. C'est la conception européenne du viol qui est en train de se régler. On assiste aujourd'hui à un hiatus entre la France et une partie de l'Europe sur ce que c'est qu'un viol. Et un viol a lieu si la femme n'a pas donné son consentement. Alors, et en fait, c'est pas la conception française.
Non. La conception française, elle s'intéresse à l'homme. C'est-à-dire à l'agresseur. A priori, je dis que c'est un homme dans 99% des cas. C'est-à-dire que c'est une pénétration, le viol, ça peut être aussi la même chose pour l'agression sexuelle, sous contrainte, sous menace, sous violence, ou avec surprise. Voilà, il y a quatre critères. Donc on regarde comment l'homme s'est comporté. Est-ce qu'il aurait été violent? Est-ce qu'il l'a fait par surprise? Est-ce qu'il a enivré la victime? Etc, etc. Ce que voudrait le droit européen, enfin pas le droit européen...
Une directive en préparation.
C'est une directive en préparation. D'ailleurs, à l'occasion de bien d'autres sujets qui concernent les femmes, l'excision, le mariage forcé, il y a cette question sur le viol. Eh bien, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on introduit le mot de consentement? Parce qu'en fait, dans le droit français, il n'existe pas. Et pourtant, dans les tribunaux, dans les cours d'assises, on ne parle que du consentement, mais il n'est pas dans le texte. Et la question européenne telle qu'elle serait posée, c'est a-t-elle donné son consentement? A-t-elle dit oui? Et quand est-ce qu'elle a dit oui? Et en réalité, ça reviendrait à faire porter la charge de la preuve sur la plaignante qui doit dire quand est-ce qu'elle a dit oui. Et est-ce qu'elle était d'accord pour dire oui jusqu'au bout, ou est-ce qu'à un moment elle a dit non? Donc en réalité, ce débat qui pour nous Français paraît totalement tautologique, c'est-à-dire se dire le viol, c'est quand on n'a pas donné son consentement. Oui, ça on l'a bien compris, mais il faut bien regarder dans quelles conditions. Et pour avoir discuté avec des magistrats, des avocats de ces pays qui ont adopté cette définition avec le consentement, mais en réalité, ils s'en sortent pas mieux. Parce qu'il faut venir expliquer quand est-ce que le consentement a commencé, quand est-ce qu'il s'est arrêté. Nous sommes en fait au milieu du guet en France. C'est-à-dire qu'on voudrait, et on a raison, de sanctionner des attitudes où on profite d'une femme, où on profite de sa vulnérabilité, par exemple avec l'ivresse. Parce que je rappelle que pour les jeunes, c'est un vrai sujet. Hein. Toutes les soirées avec le binge drinking, ce sont des filles qui se font agresser sexuellement, qui n'ont pas donné leur consentement.
Plus les drogues.
Donc toutes ces questions-là, elles sont vraiment très importantes, très topiques. Et donc on vient discuter de ça, savoir qui doit rapporter la preuve. Et en fait, on se rend compte qu'en parlant du consentement, on fait peser la preuve davantage encore sur la femme. Et finalement, on arrive à un effet contraire. Donc, je pense que la définition du viol à la française, si je puis dire, avec ces quatre critères qui sont examinés, est finalement plus efficace. On va aller chercher quelle est l'attitude de l'agresseur. Et non pas l'attitude de la plaignante, parce qu'on peut faire aussi le procès de la plaignante en disant, mais alors, vous voyez, vous étiez habillée un peu sexy, vous l'avez bien cherché. Quand est-ce que vous avez dit non? Ah, vous n'avez pas dit non. Vous voyez, c'est une question très différente.
Christophe Barbier, la question de la verbalisation.
Exactement.
En plein rapport, avant le rapport annuel,
mais la verbalisation ne suffira pas, puisqu'il n'y aura pas de preuves. Donc on va aller très vite vers une logique à l'américaine, où il n'y aura pas seulement la verbalisation, il y aura l'écrit. Donc il faudra demander une autorisation par écrite d'embrasser ou d'aller plus loin. Sinon, il y aura pas ça sera parole contre parole, ça sera un débat infini. On peut pas souhaiter à la société d'aller vers cette culture-là où il faut demander un papier de l'avocat de la femme que vous voulez séduire ou de l'homme que vous voulez inviter à dîner avant toute relation. C'est une société dont on n'a pas envie. J'ajoute un point. Il y a très peu de crimes qui ont des définitions européennes et qui sont traités au niveau européen. Il y a le terrorisme, les grands délits financiers, ce qu'on peut comprendre. Là, faire du viol un eurocrime...
Ce n'est pas un eurocrime. Ça n'est pas les enfants. C'est-à-dire le trafic sexuel d'enfants est un eurocrime, et c'est bien normal.
Mais pas le viol.
Le viol peut rester national.
Donc cette directive, pour l'instant, serait contraire à notre droit. On pourrait dire, mais non, nous, le viol, ça reste un droit national. Cette directive ne s'impose pas à nous. On va rentrer dans une espèce d'impasse ou de contradiction juridique.
Est-ce qu'on ne peut pas, tout simplement, enseigner aux garçons que un tu veux bien murmurer à l'oreille au moment où les choses deviennent sérieuses, c'est pas mal. Hein, tu
évidemment,
veux bien.
Évidemment.
Tu voudrais bien.
Non, mais ça reparle.
Ça te gêne.
Ça repasse par l'éducation. Et évidemment. Pas d'abus, c'est mieux.
Encore faut-il pouvoir éduquer. On vient de le voir avec l'affaire du tableau, qui n'a rien à voir avec l'éducation sexuelle, mais c'était dans le cadre d'un cours d'histoire de l'art. Sophie, on va terminer avec la mise en retrait du directeur de Sciences Po. Rappelons les faits, Mathias Vichra, directeur de Sciences Po, est mis en retrait après une garde à vue avec sa compagne, tous les deux gardés à vue dimanche et lundi dernier, pour violence conjugale réciproque, visiblement. Ouais. Enfin, ce dont ils s'accusent réciproquement. Ils sont relâchés. Et puis, immédiatement, les associations féministes et les syndicats de gauche d'étudiants de Sciences Po exigent le départ. Résultat, Mathias Vichra se met de lui-même en retrait. Qui dirige à Sciences Po, une poignée d'étudiants militants ou les différents conseils de l'établissement?
Bon, ce qu'il faut dire, c'est que juridiquement, effectivement, vous avez raison, il y a eu une garde à vue, mais pour les deux, pour le couple, ce qui n'est pas rare, hein, mais ça dit quelque chose tout de même. Aucune plainte n'a été déposée, pas de mesure de contrôle judiciaire, pas de mesure d'éloignement. Chacun peut vivre de son côté sans difficulté ou ensemble si même ils en ont envie. Donc, qui dirige pour répondre à votre question? L'air du temps. J'ai envie de dire, l'air du temps dirige. Et ce qui me choque, c'est que les valeurs de Sciences Po, ce sont aussi les valeurs du droit. Il y a une école du droit à Sciences Po. Et les valeurs du droit, c'est que tant qu'il n'y a pas de décision de justice, et là, il n'y a même pas de plainte, je ne comprends pas ce processus qui consiste à sortir du jeu, volontairement ou pas d'ailleurs, à ce qu'on vous force à sortir du jeu. Ça, c'est une dérive, c'est une vraie dérive à laquelle nous assistons dans les entreprises. Et j'ai l'impression que Sciences Po se comporte comme une entreprise américaine.
Ça veut dire que la peine sociale est plus forte que la peine juridique. Avant même qu'il y ait tout début d'instruction, de démarche judiciaire, un groupe intellectuel, par la terreur qu'il impose, eh bien, impose une peine sociale.
Tel animateur de radio
ne peut plus. Exactement. L'animateur de radio ne peut plus animer, l'acteur ne peut plus tourner, le directeur ne peut plus diriger, parce que l'air du temps l'a décidé.
Mais quid de la femme qui est aussi concernée par la garde à vue? On ne sait pas.
Voilà. Elle n'est pas plaignante, elle est victime pour ces gens-là.
Ni l'un ni l'autre ne sont plaignants.
Exactement.
Christophe Barbier, vous parliez de l'acteur qui ne peut plus diriger ou jouer. Un mot du Tartuffe qui résumerait l'affaire du tableau.
Ah, couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Réfléchissez-y, cher David, en regardant ce tableau de près.
Nous allons nous quitter avec de la musique galante. Diane et Actéon. De Rameau, Diane et Actéon, c'est pas seulement ce tableau hein, qui fait polémique, qui a choqué ses collégiens des Yvelines, c'est aussi cette pièce musicale qui relate elle aussi le drame d'Actéon qui, pour avoir surpris Diane et ses nymphes au bain, pour les avoir vues toutes nues, fut dévoré par sa meute après avoir été transformé en cerf. Allez, on écoute du Rameau et on remercie Christophe et Sophie, à bientôt. Oh,